40 nuances de Sista. Les Sista du Next 40, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 stars du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Et Nathalie Bala, notre invitée du jour. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Car oui, je le précise, tu fais aussi partie de ce collectif de femmes et tu as été à l'initiative aussi de ce collectif Sista.
Oui, tout à fait. Alors c'est Tatiana et Céline qui ont eu l'idée et elles ont rassemblé autour d'elles quelques femmes tout au départ. Et c'est vrai que je fais partie de ces
pionnières.
Femmes du départ, voilà, des pionnières.
Alors j'ai le plaisir de reprendre le micro après une petite pause biberon avec une invitée de marque. Et juste avant de rentrer dans le vif de l'émission, j'en profite pour remercier Thomas qui est quand même dans le studio. Il a bien voulu me laisser le micro qu'il a tendu pendant mon absence au Sista du Next 40. Je crois qu'il aurait bien aimé continuer, mais je reprends le micro. Et donc, c'est avec toi, Nathalie, que je fais ma rentrée. Et j'en suis ravie. C'est Georges Lotigier, fondateur de Veid, qui t'a choisi comme Sista pour cet épisode. Tu me disais avant qu'on commence que tu ne le connaissais pas. Et il disait qu'il ne te connaissait pas. Mais quand on lui a demandé qui tu aimerais choisir comme Sista, c'est ton nom qui lui est venu automatiquement.
C'est vraiment sympa. J'ai apprécié en tout cas qu'il pense à moi, mais c'est vrai que je ne le connais pas, mais j'ai écouté son podcast avec d'autant plus d'intérêt.
Et donc, Georges, j'aurai une petite question pour toi un peu plus tard. Mais tu l'as peut-être déjà entendu, du coup, si
oui,
tu as écouté son podcast.
Je l'ai
écouté. Donc, elle sera moyen surprise, mais il y aura d'autres questions surprises. Alors, pour démarrer cette émission, je t'ai demandé quelle musique tu choisirais pour décrire ton aventure à la Redoute. Et tu as choisi ça. Ça rappelle des souvenirs à tout le monde. Donc, I Will Survive, tu peux nous expliquer ?
Bah, disons que c'est toute l'histoire en fait de la reprise. C'est une entreprise qui était donnée pour morte. Et finalement à laquelle on a assuré une survie, et c'est tout ce qui nous animait avec Eric et puis les équipes quand on a repris ensemble la Redoute. Donc c'est en plus la musique, je l'aime bien, ça rappelle des souvenirs.
Puis c'est une victoire aussi.
Et c'est une victoire, voilà. Donc en fait, en gros, je trouve que ça caractérise bien en tout cas les débuts de cette histoire.
Tous les avis sont unanimes. Tu as fait avec Eric Courteil, ton associé, un boulot incroyable à la Redoute. Comment on développe une marque pour qu'elle traverse comme ça les générations ?
Alors, la Redoute, c'est une marque incroyable parce qu'au départ, c'était une filature. Ça a été créé en 1837. Et ça s'est développé au fil du temps. Donc, je pense que c'est dans l'ADN de la Redoute, l'innovation, la création, le fait de se réinventer, cette capacité à rebondir. C'est nous ce qui nous a rendu aussi très confiants quand on a repris la Redoute. Et on s'est appuyé très fortement justement sur cet ADN de la Redoute, qu'on a fait ressortir, qu'on a travaillé avec les équipes pour bien avoir ce socle commun et puis cette base qui nous rassemble. Et à partir de ça, mettre l'entreprise en mouvement pour la remettre au goût du jour, dans la modernité, etc. Et c'est passé par un travail sur les produits, un travail bien sûr sur le média, puisqu'on a abandonné le catalogue papier. Et puis aussi un travail sur la culture de l'entreprise pour digitaliser l'entreprise au sens large. Pas juste passer du catalogue
au
site web, mais vraiment devenir une entreprise digitale.
Et une marketplace.
Et entre autres, oui.
Et du coup, en fait, tu es arrivée à la Redoute en 2009. La reprise a eu lieu en 2014. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pendant ce temps-là ?
Alors, en 2009, j'arrive à la Redoute. Donc, c'était déjà à l'époque pour une aventure entrepreneuriale. Le groupe PPR, donc Pinot Printemps Redoute, voulait se recentrer sur le luxe et le lifestyle. et avait décidé de céder toutes ses activités grand public, donc Conforama, la FNAC, la Redoute et d'autres activités grand public. Donc je savais que j'arrivais dans un groupe qui voulait céder ses activités de vente à distance au sens large. Et l'idée à l'époque, c'était de partir avec un groupe de managers, dont Thierry Courteil, mais aussi à l'époque Jean-Michel Noir, et d'accompagner la sortie de Red Cats, qui était la holding qui détenait toutes les activités de vente à distance, dans une aventure entrepreneuriale. Donc j'arrivais déjà pour une aventure entrepreneuriale. Bon, le fait est que cette aventure ne s'est pas passée tout à fait comme on se l'était imaginé. Parce qu'il y a eu la crise en fait de 2010-2011 ouais. qui a rendu le financement relativement cher à l'époque par rapport à la valeur que le groupe voulait pour Red Cats. Et ce qui fait que finalement le groupe Red Cats a été vendu par appartement. Et c'est de cette manière-là finalement qu'en 2014, Eric et moi avons repris la Redoute.
Et tu venais déjà de ce milieu-là, non ?
Oui, alors moi, j'ai commencé dans... Alors, j'ai fait un doctorat en finance. J'ai commencé dans l'audit et j'ai assez rapidement bifurqué sur le commerce à distance au sens large, la vente à distance à l'époque. C'était donc le commerce du catalogue en Allemagne. L'Allemagne avait un peu plus d'avance, donc avait déjà plus digitalisé les activités. Et quand j'ai rejoint la Redoute, j'étais forte de cette expérience allemande, ce qui m'a permis d'appliquer des choses que j'avais déjà mises en œuvre en Allemagne et de pouvoir accélérer la transformation de la Redoute.
Et pourquoi en Allemagne, ils avaient ce temps d'avance, selon toi ?
Alors, je sais pas, peut-être que c'est lié au fait que globalement, je pense que la société allemande est un peu plus ouverte en fait aux transformations et aux changements, qui a un tout petit peu moins de résistance en fait aux changements. Et du coup, il y avait un peu comme les US sont encore plus en avance. L'Allemagne avait peut-être 2-3 ans d'avance sur la France à cette époque-là.
Alors, vous avez porté l'entreprise en binôme avec Eric Courteil. C'est maintenant un cas d'école, souvent on vous cite en exemple. Comment ça s'est fait ?
Alors, assez naturellement. Alors déjà, il faut savoir que la deuxième personne que j'ai vue avant de rejoindre Red Cats, c'était Eric Courteil. Donc j'ai d'abord vu Jean-Michel Noir, qui en entretien, qui m'a demandé si j'avais un peu plus de temps. Et du coup, il y a un grand gaillard qui est arrivé dans la salle et avec qui j'ai passé mon deuxième entretien avant de rejoindre Red Cat, c'était Eric Courteil. Et j'ai tout de suite trouvé hyper dans l'énergie, dans la modernité, dans la volonté de faire avancer les choses, etc. Donc en fait, on s'entendait déjà très très bien en tant que collègues chez Red Cats. Et quand le groupe a décidé de vendre Red Cats par appartement, on était en charge en fait de la cession tous les deux. Donc moi en tant que PDG de La Redoute et lui en tant que secrétaire général de Red Cats. Et ce qui fait que ça nous a rapprochés, on a beaucoup travaillé ensemble. Et à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi pas nous quoi ? On a vu les offres qu'il y avait sur la table, on y croyait pas forcément, en tout cas pas toutes les offres, on y croyait même en partie pas du tout.
Pour des questions de vision, des questions de business de...
Alors, plusieurs choses, selon les candidats à la reprise, des questions de vision. Il y avait un candidat qui voulait transformer la Redoute en marketplace, alors que la force de la Redoute, c'est les marques propres. Donc ça, moi, j'y croyais, mais vraiment absolument pas. Ensuite, il y avait des fonds qui étaient en lice, donc où finalement les intentions n'étaient pas forcément toujours très très claires. Mmh. En tout cas, on savait que le retour sur investissement serait plus important que la transformation fondamentale de l'entreprise. Donc je me disais, je connaissais l'entreprise, je savais le besoin profond de transformation qu'il y avait et d'investissement qu'il y avait. Donc je me disais, c'est quand même compliqué dans cet environnement-là. Et l'entreprise n'avait pas forcément une maturité très forte en termes financiers, en tout cas pour pouvoir appréhender et travailler avec un fonds. Donc voilà, il y a plusieurs raisons qui, moi, m'auraient fait partir si jamais un des repreneurs potentiels qui était en lice aurait repris. Et du coup, avec Eric, à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi pas nous quoi ? On connaît l'entreprise, on sait ce qu'il faut faire. PPR, ou à l'époque c'était déjà Kering, va injecter de l'argent ou doit injecter de l'argent. Donc, pourquoi pas nous ? Et en plus, on avait le management avec nous, on pensait pouvoir emmener les équipes avec nous. Et je pense que voilà, c'est ça qui nous a rapprochés et on a écrit un projet ensemble. Et bon, je pense qu'aucun de nous ne regrette d'avoir écrit cette histoire à quatre mains et on a vécu une aventure juste de dingue.
Mais bon, j'aurais bien aimé être une petite souris à ce moment-là où vous dites on le fait, on propose quelque chose. Ça s'est fait relativement spontanément. Vous avez pris le temps de la réflexion. Vous avez comment ça s'est passé dans les coulisses?
Oui, alors on a pris le temps de la réflexion. Alors déjà le temps, je dirais, de présenter la Redoute aux différents actionnaires. Tous les entretiens qu'on a eus nous a permis finalement. Bon, déjà moi j'avais préparé un business plan avec les équipes qui avaient bien sûr l'aval de l'actionnaire sortant. On a présenté aux différents repreneurs potentiels. Donc du coup, on a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté, on a pu en fait se rendre compte là où on était complémentaires, là où on était d'accord, là où on l'était pas forcément. À un moment donné, c'est vrai que quand s'est posé la question de quelles recommandations on pouvait faire à l'actionnaire sortant, c'est là où on s'est dit mais en fait nous, on a des idées en partie différentes des repreneurs potentiels. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Alors, on s'est quand même enfermé pendant un peu plus d'une demi-journée dans une pièce, une salle de réunion, pour se tester et vraiment aller au bout du sujet parce que on pouvait pas prendre le sujet à la légère. C'était
Tester, quand tu dis se tester, c'est aussi dans votre capacité à co-gérer tous les deux la boîte?
Oui, à travailler ensemble, parce que c'était pas évident. En fait, moi, j'étais PDG, donc il fallait que je laisse un peu de place à côté de moi. Quoi, même beaucoup de place, parce que quand on connaît Eric Courtaille, il prend beaucoup de place.
C'est deux entrepreneurs pour un fauteuil.
Voilà, c'est ça. Et Eric, pareil, il arrivait dans une équipe toute faite et il devait faire sa place, il devait acquérir sa légitimité. Donc, il fallait qu'on ait l'humilité respective, tout en étant quand même assez ambitieux et très, en fait, en gros, fonceur, pour laisser à chacun la place pour s'exprimer, pour vivre et pour faire vivre cette complémentarité qu'on a. Donc, c'était quand même pas... Et une sacrée responsabilité, parce qu'on avait plus de 3000 collaborateurs. On part pas dans une aventure comme ça, la fleur au fusil. Et...
C'est sûr. Ouais. Et vous aviez mis une grille pour tester des choses? Vous aviez pris une tierce personne pour vous challenger ou c'était vraiment que tous les deux?
Non, tous les deux. Alors, on est un peu pareil tous les deux. On n'aime pas trop les consultants. on se fait assez confiance sur notre capacité finalement à se challenger. Moi, je suis un peu plus scolaire, donc j'avais préparé ma liste. Lui, il est un peu plus, je dirais, out of the box. Donc, chacun avait préparé à sa manière. C'est un gros, gros bosseur. Hein. Ça ne veut pas pour autant dire que ce n'est pas parce qu'il n'a pas sa liste qu'il n'a pas bossé. Et on a vraiment bien échangé. Et voilà, on s'est rendu compte qu'on était alignés sur énormément de sujets, qu'on était très complémentaires. Et je pense que voilà, on était certains. On a aussi discuté d'une gouvernance, hein, c'est-à-dire que on savait que ça peut être une raison de clash, en fait, un désaccord entre deux associés. Du coup, on avait réfléchi à une gouvernance qui sécurisait l'avenir de l'entreprise. On avait décidé de mettre en place un conseil de surveillance si jamais il y avait une reprise par nous, ou en tout cas le conseil d'administration acceptait notre projet. Donc ça s'est très bien passé.
Et vous aviez été inspiré par d'autres binômes?
Non, alors le seul binôme dont on nous parlait toujours, c'était le binôme d'accord. Hein.
Ouais.
C'était un binôme masculin, mais qui travaillait très différemment. Donc non, on a eu tout à inventer. Et c'est vrai qu'au départ, on a eu quelques semaines où il a fallu qu'on se trouve et qu'on trouve notre mode de fonctionnement. Les équipes voulaient absolument qu'on sépare les fonctions. Et nous, à un moment donné, on s'est dit, bah non, on va pas se les laisser séparer par les équipes parce que c'est la plus grande chance que ça capote. Et donc, on s'est mis à deux sur toutes les décisions. Ça peut paraître très bizarre. On peut se dire, mais ça ralentit tout, ça complexifie tout. Au contraire, en fait, ça nous a permis d'avancer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement.
Et le fait que ce soit un duo homme-femme, tu penses que ça a eu un vrai impact ou...
Ouais, moi, je pense parce que, alors, pour plein de raisons, je pense que... Alors, c'est bien sûr, c'est les personnalités. Il est extraverti, je suis introvertie. Bon, voilà, je vais pas faire tout le portrait des deux, mais on est très très différents. Je pense qu'il y a certaines personnes qui réagissent mieux en fait à Eric, d'autres qui réagissent mieux à moi. Et le fait d'être deux finalement nous a donné une surface en fait d'action beaucoup plus importante que je pense que si on avait été seul ou si on avait été deux femmes ou deux hommes, je pense qu'il y a une forme de complémentarité qui s'est inscrite.
Même au-delà du genre en fait, par rapport au-delà du genre, à vos personnalités. Au-delà,
ouais, par rapport aux personnalités surtout.
Je pense que c'est le moment d'envoyer la question de Georges.
Vous avez un message.
La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que, Nathalie, vous avez... ressenti des freins au fait que vous soyez... est-ce que ça vous a freiné dans, à la fois en tant que chef d'entreprise dans les équipes, mais aussi par rapport à la confiance qu'ont pu avoir les banquiers dans l'entreprise? Est-ce que le fait d'être une femme a été une difficulté? Ou au contraire, est-ce que ça a facilité les choses parce qu'il fallait changer la redoute et finalement changer de direction et de style de direction et peut-être incarné par une femme pouvait mieux incarner ce changement, j'en sais rien. Mais voilà, est-ce que ça a été facilitateur ou est-ce qu'au contraire, ça a été une difficulté?
Alors moi, en tant que femme, j'ai toujours plutôt eu l'impression que... j'avais pas plus de barrières en fait qu'un homme et souvent en fait les barrières on se les met soi-même. C'est-à-dire on a aussi pas mal travaillé avec les jeunes à la Redoute et on se rend compte même les jeunes en fait que ce soit des femmes ou des hommes hein, c'est indépendant se mettent beaucoup les barrières eux-mêmes. Donc je pense la capacité à ne pas se mettre de barrières ou à passer outre les barrières, c'est surtout ça finalement qui détermine le succès d'un entrepreneur ou en tout cas la capacité de quelqu'un à entreprendre. Moi, je pense que le fait d'avoir été femme à la tête d'une entreprise aussi emblématique que la Redoute, ça m'a plutôt servi parce que les médias étaient en recherche en fait de rôle modèle et comme la Redoute, c'est une entreprise avec qui tout le monde entretient un lien d'affection. Et que notre aventure a quand même surpris parce que tout le monde nous donnait plutôt pour mort et pas pour gagnant et que finalement on surprenait positivement en réussissant à transformer l'entreprise. Ça m'a donné une visibilité que j'aurais probablement peut-être pas eue en tant qu'homme. Et c'est vrai que dans le binôme, c'est plutôt moi qui étais mise en avant par les médias, alors qu'on est un binôme et qu'on a toujours eu, on s'est toujours évertué à mettre en avant le binôme, parce que ce qui a fait notre force et notre différence, c'est le fait d'être un binôme.
Et ces questions-là, ça aurait pu crasher ce projet de duo, justement? Le fait qu'il y en ait un qui soit plus sollicité que l'autre par...
Non, je pense que nous, on était vraiment portés par un truc qui nous dépassait, c'était assurer la survie de la Redoute. Donc, déjà, le fait de se mettre à deux, en fait, l'ego n'a pas de place. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a la volonté de vaincre, la volonté de gagner et de réussir. Ça, on est tous les deux portés par ça, mais l'ego n'a pas de place. Et je pense que c'est en ça où, voilà, c'est pas une question de femme ou d'homme. Je pense que tous les deux, avec des caractères très différents, en étant une femme, un homme, on a su chacun mettre notre ego de côté et le mettre au service de l'entreprise et des collaborateurs et je dirais de la transformation de l'entreprise. Et c'est ça qui a fait la différence.
Alors, on dit souvent que c'est pas simple d'amorcer le changement dans un grand groupe. Qu'est-ce qui a fait la réussite de la Transfo, justement, de la Redoute,
alors,
selon toi?
Ouais, alors c'est ce qui est le plus difficile. La transformation et en particulier la transformation culturelle, c'est hyper compliqué. Quand je suis arrivée à la Redoute, en fait, la phrase que j'ai, je crois, le plus entendue, c'est on a déjà fait, on a déjà essayé, ça n'a pas marché. Et ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue parce que finalement, quand on veut transformer, et je pense que chaque entreprise finalement est en transformation permanente, il faut avoir une capacité à se remettre en question, il faut avoir une capacité à être curieux, à s'ouvrir vers l'extérieur, à regarder ce qui se passe, à être agile et puis à être aussi opportuniste quelque part. Donc je pense que ça a été le plus gros travail qu'on a réalisé avec Eric, c'est d'ouvrir l'entreprise, de lui redonner confiance en elle-même, parce qu'elle commençait à perdre sacrément confiance en sa capacité, finalement, à répondre aux besoins du marché.
Et tout ça sans consultant.
Oui, alors, pour être tout à fait franche, on a quand même au tout départ, parce qu'on avait à la fois le projet à écrire, le plan social à écrire aussi dans un premier temps et puis ensuite à mettre en œuvre. On s'est fait accompagner par Alix Partner, mais qui sont des consultants d'un autre ordre, puisque c'est des consultants seniors qui, finalement, arrivent avec une expérience et qui vous permettent d'accélérer grâce à l'expérience, mais qui vont pas vous écrire une stratégie ou quoi que ce soit, qui vont vous aider finalement plutôt à mettre en œuvre avec des consultants d'une très grande qualité.
De manière très pragmatique.
Très pragmatique, voilà, tout à fait. Mais oui, mais sinon, non, sans consultant. Non, il faut que je sois complètement honnête parce que sinon, je rentrais injustice à Alix qui nous a quand même pas mal aidé au départ. Mais oui, du coup, j'en ai perdu le fil.
Tu disais que en fait, les changements, c'était compliqué parce que t'entendais souvent, mais ça, on l'a déjà fait, et qu'il a fallu changer aussi la mentalité des équipes pour avancer sur ces sujets-là.
Oui, tout à fait. Et ça, je pense que au départ, nous, on a sous-estimé ça avec Eric. La transformation culturelle et le chantier humain à mener.
Et comment vous avez fait, du coup ?
Alors, nous, on l'avait intégré de manière un peu intellectuelle et je dirais pragmatique, en se disant que on reprenait l'entreprise. On a eu la chance de la reprendre pour un euro symbolique et recapitalisé. Et du coup, on s'était dit, on va ouvrir le capital de l'entreprise à l'ensemble des collaborateurs. Comme ça, on va les impliquer et leurs intérêts seront alignés sur les nôtres. Et du coup, on sera animés tous par finalement la même volonté de réussir. Bon, le fait est que c'est quand même pas aussi binaire que ça, que ça a certainement contribué et que ça a motivé les équipes de savoir qu'elles pouvaient être actionnaires de leur entreprise, mais que ça va bien plus au-delà finalement et que c'est une vraie révolution culturelle qu'on a menée. Et ça prend énormément de temps. C'est ça qui prend le plus de temps finalement. On a beaucoup, beaucoup communiqué sur le projet. Alors au départ, on était dans une phase de survie, on était très top-down. Mm-hmm. Et au fur et à mesure, on a dû nous aussi se remettre en question parce qu'on est passé sur une approche de plus en plus bottom-up. Parce que finalement, plus on sortait finalement de la zone où l'entreprise perdait beaucoup d'argent et plus on se rapprochait du break-even, plus on avait besoin finalement de rentrer dans une logique de développement. Et là, on a besoin que tout le monde finalement prenne des initiatives, tout le monde en fait mette la main à la pâte. On a dû, nous et avec Eric, remettre énormément en question. Ça n'a pas été évident. Il y a une histoire que j'aime bien raconter. À un moment donné, on s'est fait virer du comité de direction parce qu'on avait tendance à être hyper opérationnel, hyper hands-on. Et finalement, pas suffisamment orienté sur le futur, sur les 3-5 prochaines années et sur les orientations stratégiques. Et le comité de direction nous a dit, écoutez, vous, votre rôle, c'est finalement de nous montrer la voie et finalement de construire avec nous la voie. Nous, on est là pour finalement faire, et bien sûr construire avec vous, mais faire. Donc, laissez-nous faire. Et puis, apporter vraiment la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à l'entreprise. Et je me rappelle, ça nous a quand même un peu chiffonné à l'époque de se faire virer du comité. Oui, c'est une petite claque. Voilà, c'est la claque. Voilà. C'est une des claques.
Une des claques. Et oui, et donc du coup, après, il faut aussi recommuniquer auprès des équipes sur ce genre de situation.
Oui, et moi, en plus, ça a été particulièrement difficile parce que, en fait, je me nourris au contact des équipes. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être sur le terrain, de parler avec les équipes pour comprendre où le bât blesse, où les choses marchent bien, mais finalement, et où on pourrait accélérer, mais on n'accélère pas suffisamment parce que, parfois, il faut aussi gérer. On est dans des logiques budgétaires ou dans des logiques un peu préconçues, je dirais. Donc ça a été... du coup, on a retrouvé une place au sein de l'entreprise qui nous a donné beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, où justement, on a commencé à accompagner aussi les jeunes collaborateurs et à se nourrir des jeunes collaborateurs, puisqu'on pouvait plus se nourrir du comité de direction et de l'opérationnel en tant que tel, et qui nous a permis finalement de voir les choses différemment, de comprendre les enjeux différemment et je pense aussi d'accélérer la transformation de la Redoute au final.
Comment on met sa touche dans une marque historique comme la Redoute ?
Alors pareil, avec énormément d'humilité. Je pense que Quoi, moi, ma touche, je pense la plus importante, ça a été le changement de manière de faire ou le changement, comment dire, de la vision du rôle d'un dirigeant. La Redoute, c'est une entreprise qui était historique, qui a eu énormément de succès et très statutaire. Hein. Où le PDG, c'était vraiment, en fait, quelqu'un à une sommité. D'ailleurs, quand je suis arrivée dans le Nord, en fait, le fait d'être PDG de la Redoute, ça m'a complètement angoissée parce que c'était vraiment, en fait, on jouait un rôle. Et ça, quoi, moi, en tout cas, venant d'une culture plus germanique ou anglo-saxonne, hein, j'avais pas du tout cette vision en fait du président et puis en fait
il avait
statutaire
sa photo,
voilà et avec sa photo ou son nom sur la porte etc. C'est des trucs complètement hallucinants et donc en fait c'est de changer la relation finalement d'avoir plus de transversalité de bah, que chaque maillon compte finalement et que c'est pas parce qu'on est président qu'on est sachant et que tout doit venir du président, mais qu'au contraire, en fait, c'est une équipe et que c'est plus le leadership et la vision et la capacité finalement à montrer le coin de ciel bleu qui compte que le statut et le titre de président en tant
sur la porte.
Voilà.
Ouais. Et ça a dû contribuer aussi à la transformation globale. Oui. De l'entreprise.
Oui, tout à fait.
Cette nouvelle culture, finalement.
Oui, oui. Alors ça a été fondamental. En fait, on venait d'une culture industrielle parce qu'au départ, c'était une logique industrielle, donc très hiérarchisée, très en fait top-down. Et donc là, ça a été tout l'enjeu a été de décloisonner ça, de rentrer dans une logique plus bottom-up et surtout avec le manager qui jouait un rôle complètement différent, plus de coach, plus en fait d'animateur en fait et de facilitateur que de petit chef en fait qui passe des informations et qui seront importants parce qu'il détient des informations que les autres n'ont pas.
C'est quoi selon toi les 3-4 clés de cette success story?
Alors je pense c'est déjà les équipes. Alors, c'est la capacité des équipes à se remettre en question, cette volonté acharnée de, quelle que soit en fait la situation, de réussir et de se transformer. En fait, on n'aurait jamais réussi ça à deux avec Eric, ni avec le comité de direction, mais c'est bien parce que chacun, finalement, a su se remettre en question qu'on y est arrivé.
Tu parlais tout à l'heure de plan social,
oui.
Quand vous êtes arrivé. Oui. J'imagine qu'après, il a fallu aussi re-recruter quand tout s'est bien passé. Les équipes qui sont restées ont eu tendance à rester jusqu'à la fin de l'aventure avec vous ou vous avez eu beaucoup de turnover sur les débuts?
Alors, on a eu de tout. En fait, en gros, là, le directeur marketing de la Redoute, c'est quelqu'un qui était encore tout jeune et tout petit quand moi je suis arrivée à la Redoute, il est encore là. Pareil à l'entrepôt, on a des collaborateurs historiques qui sont dédiés quand il y a eu le Covid, qui venaient sur la base du volontariat parce que finalement ils ne pouvaient pas s'imaginer ne pas servir leurs clients. Et après, on a quand même recruté aussi pas mal de nouveaux talents, notamment voilà quand on a voulu accélérer sur le développement de la marketplace, c'était un tout nouveau métier. Je pense que ça a été la. En fait, moi, mon idée, c'était de ne pas tout jeter par-dessus bord, parce qu'en fait, une entreprise comme ça, historique, elle a une ADN. Les collaborateurs historiques, ils n'ont pas tout mal fait. C'est pas parce que l'entreprise va mal que chacun est mauvais. Au contraire, on avait des gens très talentueux. Je crois que le succès, ça a été de savoir combiner et de savoir garder en fait des talents historiques et de savoir apporter du sang neuf là où il fallait et de mettre l'entreprise en mouvement. Parce que je pense que le mouvement, c'est ce qui est le plus important. Donc ça a été une clé de succès.
Et l'équipe.
Voilà, l'équipe. Ensuite, le produit. Parce que notre capacité de différenciation vient de notre capacité à développer des marques propres, hein, à la fois en prêt-à-porter, à la fois en maison et décoration. Et ça, les grosses marketplaces comme Amazon, Zalando ont beaucoup de mal à faire ça. Nous, ça, c'était une force historique. Et je pense que c'est aussi notre capacité de différenciation. Alors, je dis encore nous, mais voilà, c'est une histoire tellement forte que voilà, oui. les équipes me le pardonneront. Le troisième sujet, c'est le service. C'est la capacité à en utilisant la digitalisation et les investissements, améliorer le niveau de service de l'entreprise et à se mettre au niveau en fait de gens comme Amazon ou Zalando pour les reciter et rester dans la course en quelque sorte.
Alors dans les clés là, tu citais les équipes, les produits, les services. Si on pense à toutes ces nouvelles marques trendy qu'on appelle les DNVB ou les D2C, comment un grand groupe comme la Redoute se positionne vis-à-vis de ces nouvelles marques, de ces nouveaux acteurs qui ont une très grande agilité, qui cassent un peu les codes par rapport à ce qui se faisait avant dans le commerce, dans le retail et dans le digital. Comment vous avez réagi vous, par rapport à l'avènement de ces marques?
Alors pour nous, quoi. Moi, j'ai une logique assez simple. Je trouve que la concurrence, c'est hyper sain et que la concurrence, finalement, c'est ce qui est un peu ce qui t'anime au quotidien. Parce que comme on est très compétiteur avec Eric, et puis c'est finalement montrer que même s'il y a de la concurrence, on peut rester les meilleurs ou on a envie d'être les meilleurs. Et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un ou plusieurs concurrents parce que ça permet de se remettre en question en permanence. Donc nous, on a été assez pragmatiques par rapport à ça. D'une part, on a pas mal collaboré avec ces DNVB, donc on a fait des collabs avec Cézanne, avec Balzac, etc. Et c'est des fondatrices en plus que moi j'admire énormément. Je trouve qu'elles ont créé des choses assez dingues. Et nous, en fait, on a toujours été animés par quelque chose, par notre ADN. Et notre ADN, en fait, c'était de servir les familles, d'embellir la vie des familles. Et donc, on s'est plutôt concentré aussi là-dessus, en prenant bien sûr les choses que ces DNVB faisaient bien, mais on n'a jamais perdu le sens de qui on était et de ce qui faisait notre différence. Et on a juste, en fait, un peu changé les ingrédients pour finalement revenir au goût du jour et dépoussiérer la marque. Mais au final, on a gardé cet ADN et cette mission de la Redoute historique. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. C'est ça qui fait qu'on a eu du succès. On ne s'est pas perdu, finalement, en essayant de copier les uns et les autres. On est resté qui on était. On s'est juste
remis... Fidèle à votre mission,
voilà,
marque.
On est resté fidèle et on s'est inspiré, je dirais plutôt... je dirais des éléments positifs, mais alors des DNVB, mais aussi moi j'ai beaucoup regardé des marques comme Apple, ou des marques qui en fait en gros sur des secteurs complètement différents, mais qui ont réussi finalement à se réinventer.
À l'inverse, j'imagine qu'il y a eu aussi des choses qui ont été testées et qui n'ont pas fonctionné. Tu peux nous en parler ?
Oui, alors, moi, quand je suis arrivée, j'avais en tête, en fait, de faire plein de petits spécialistes. Hein, le spécialiste de la chaussure, le spécialiste, en fait, de l'homme, le spécialiste de l'enfant. Je trouvais ça génial. Et puis...
ça répondait peut-être à une de tes problématiques à toi?
Non, pas du tout. Je me disais, en fait, c'est les spécialistes qui gagnent. Hein, ouais. Et donc, en fait, faisons plein de petits spécialistes. Le fait est que j'ai très vite compris que ça coûterait beaucoup trop cher d'alimenter le trafic pour autant de spécialistes. Et du coup, on a très vite redéfait, en fait, cette histoire-là pour, en fait, se concentrer sur la Redoute, sur la grosse machine, quelque part. Hein, parce qu'on avait une source de trafic naturelle sur la Redoute et c'était complètement débile de vouloir créer en fait plein de petits spécialistes et sur lesquels il fallait payer très cher pour faire venir en fait les clients. Donc voilà, il y a ça entre autres, il y en a eu pas mal.
Vous avez un message.
Bonjour Nathalie. Tu as eu un grand succès avec la reprise de la Redoute et donc ça m'intéresse de te poser la question en tant qu'experte du e-commerce. On sait que le e-commerce a explosé pendant la crise du Covid et du confinement et aujourd'hui il y a plein de questions aussi sur le rapport à l'achat à distance, notamment sur les questions environnementales, le transport, la logistique. Et j'aimerais savoir ce que toi, tu en penses. C'est-à-dire, comment est-ce que le e-commerce doit s'adapter aujourd'hui face un peu au backlash, au retour de bâton sur les questions environnementales, le fait de faire des livraisons gratuites, de livrer le moins cher possible, le plus rapidement possible, qui sont souvent des enjeux qui vont finalement être consommateurs d'énergie et être pas forcément très favorables à la question des émissions de gaz à effet de serre.
Est-ce que tu as reconnu cette voix ?
Non, je n'ai pas reconnu.
C'est Olivier Mathieu.
Ah d'accord, c'est Olivier, d'accord.
Qui nous a... qui était là tout à l'heure en fait. Oui. Mais il ne s'est pas présenté au début, c'est une surprise. Donc c'est Olivier que nos auditeurs auront reconnu, qui te pose cette question.
Oui, alors... Je vais peut-être vous décevoir ou je vais peut-être me faire pas mal d'ennemis. Mais en fait, les émissions de CO2 de l'e-commerce sont pas plus importantes que celles du commerce tout court. Hein. Donc, je pense que c'est pas un sujet e-commerce ou un sujet retail physique. C'est un sujet global. Hein. Ça, c'est un sujet de responsabilité d'entreprise. Et je dirais que, en tant qu'entrepreneur, en tout cas avec Eric, nous, on avait une vision qu'on avait envie de laisser avoir un impact positif sur notre planète et sur notre société. Donc, malgré toutes les difficultés qu'on a rencontrées, pour nous, la RSE a toujours été un sujet fondamental qui nous a animés et on a été très, très vigilants. D'avancer de manière responsable.
Donc, mais sur toute la chaîne de valeur.
Sur
en fait,
toute la chaîne de valeur. Parce que finalement, chez un e-commerçant, le transport, ça représente 10% des émissions de CO2. En tout cas, un commerçant comme La Redoute qui crée et développe ses produits, les plus grosses émissions, en fait, c'est la fabrication des produits. Donc, du prêt-à-porter, de la maison et de la décoration. Donc, on s'est attelé à travailler sur des collections dites responsables, éco-conçues, qui permettent en fait d'économiser en eau, qui permettent d'économiser en CO2, qui utilisent des matières en fait aussi qui soient plus propres pour aussi les consommateurs. Donc, on s'est plutôt attelé à ces sujets-là. Et moi, au sujet du transport en tant que tel ou des derniers kilomètres, parce que ça, c'est un faux débat. On a tous le même sujet, qu'on soit retailer physique ou qu'on soit e-commerçant.
Récemment, vous avez lancé la Reboucle. J'adore ce nom, c'est très smart. Comment est née l'initiative ?
Alors, l'initiative, elle est née c'était relativement tôt, en 2018-2019. Voire même avant, 2017 plutôt, on avait un garçon qui s'occupait de l'innovation chez nous et qui, a travaillé avec l'ensemble des équipes et le comité de direction sur les axes de croissance futurs. Et la seconde main, en tant qu'entreprise qui vise à embellir la vie des familles, était un sujet qui paraissait assez évident puisque on se revend ou on se repasse en fait les vêtements d'enfants en particulier, les poussettes, les lits de bébés, etc. À l'époque, on s'est dit c'est un sujet génial, mais on a notre propre modèle industriel et commercial déjà à transformer et ça représente des investissements lourds. On va pas pouvoir en fait adresser tous les sujets à la fois, parce que c'est un modèle commercial quand même très différent, le C2C. Donc, on avait mis de côté. Et le Covid est arrivé. On a été assez drastique avec Eric et le comité de direction. En fait, on a arrêté tous les projets, mis à part 5 projets hyper structurants pour l'entreprise ou des projets qu'on ne pouvait pas décaler parce que il y avait des aspects réglementaires en fait, auxquels il fallait se conformer. En mai 2020, on sentait que il y avait une traction qui était en train de revenir, que l'e-commerce avait le vent en poupe et que finalement on allait se développer beaucoup plus favorablement que ce qu'on avait imaginé en mars 2020 quand on a dû tout fermer. Et c'est là où on s'est dit, mais au lieu de repartir comme en 40 sur les projets qu'on avait prévu de faire en début d'année, reposons-nous la question de vers quel monde on va, ça sera quoi le new normal entre guillemets. Et c'est là où on s'est dit, mais la seconde main, en fait, c'est un sujet qui est incontournable. En tout cas, qui nous paraissait déjà évident en 2017-2018, mais là, qui devenait vraiment incontournable aussi par rapport aux enjeux environnementaux, par rapport au sujet de pouvoir d'achat, etc. C'est là où on s'est dit, au lieu de reprendre nos projets qu'on avait prévu de faire en début d'année, lançons-nous, en fait, dans la seconde main. Et pour la petite histoire, il faut rendre à César ce qui est à César. Moi, la Reboucle et Eric, pareil, on n'a pas du tout adhéré au nom. C'est les équipes, en fait, qui se sont battues pour appeler ça la Reboucle. Et en fait, force est de constater que c'est un super nom.
Et tes premiers apprentissages, du coup, de ce nouveau modèle ?
Écoute, c'est un modèle où on savait que c'est un modèle économique complètement différent. Mmh. Donc nous, on l'a déjà intégré en sachant que on le faisait d'un point de vue plus serviciel pour nos clients, dans une approche servicielle pour embellir la vie des familles, c'est-à-dire leur faciliter la revente de leurs produits de seconde main. Donc on a intégré des fonctionnalités aussi qui leur permettaient de reprendre les photos, les textes en fait de la Redoute s'ils avaient acheté des produits à la Redoute. Le fait est que c'est un business où il y a quand même des compétiteurs comme Vinted, pour ne pas les citer, qui ont investi énormément dans des solutions technologiques et que voilà, ça demandera du temps pour avoir le même niveau finalement de performance qu'un Vinted. Mais c'est un service en tout cas où ça correspond à un besoin de consommation et c'est un secteur dans lequel la Redoute continue à investir.
Alors on a parlé de ton arrivée à la Redoute, de la reprise et récemment, il y a eu la troisième étape où tu as donné les clés de la Redoute, si je puis le dire ainsi. Tu peux nous en parler ?
Ouais. Alors, ça n'a pas été une période simple pour moi, parce que c'est vrai que j'ai vécu 13 ans à la Redoute, des phases... une histoire de dingue, comme je disais tout au début, avec des hauts, des bas. En plus, on avait une très, très bonne relation avec l'équipe du comité de direction, avec Eric, etc. Et d'un autre côté, je suis assez pragmatique. Donc, je me disais, bon, de toute manière, il y a des cycles comme ça d'une dizaine d'années. Et à un moment donné, soit tu as l'énergie pour repartir dans un second cycle, ou soit tu ne l'as pas. Et pour moi, je m'étais posé la question et c'était assez clair que je me disais, il faut laisser la place. Il faut laisser la place à des gens qui sont... Moi, j'ai repris la Redoute, j'avais une quarantaine d'années, à des gens qui ont aujourd'hui 40 ans, voire peut-être un tout petit peu plus, mais en tout cas qui voient les choses différemment, qui peuvent apporter des nouvelles idées et qui sauront finalement guider la Redoute sur les 10 prochaines années. Donc ça a été assez évident pour moi. Et la vraie joie ou la vraie satisfaction, c'est que le binôme qui a repris la Redoute émerge en fait des équipes de la Redoute. Donc c'est-à-dire qu'on a su avec Eric préparer finalement
la suite,
transmettre. Et ça pour moi c'était hyper important. J'avais pas envie de construire, de développer et finalement après moi le déluge. Au contraire, là je sais que l'entreprise est entre de bonnes mains et que c'est des gens qui connaissent l'entreprise, qui aiment l'entreprise et qui auront la capacité à la transformer.
Et c'était important que ce soit un binôme encore ?
Alors, c'est pas un vrai binôme comme on l'était. Il y a un DG et une DG adjointe. Mais au final, je pense qu'ils fonctionnent quand même. Ils fonctionnaient déjà avant pas mal en binôme. Donc, ils continuent à fonctionner. Alors, ça ne sera pas un MeToo de Nathalie Eric. Et puis, je ne leur souhaite surtout pas.
Non, il faut qu'ils écrivent leur histoire.
Il faut qu'ils écrivent leur histoire. Mais c'est quand même un homme et une femme. Voilà.
C'est simple comme décision à prendre de céder sa boîte ?
Alors, avec Eric, on n'avait pas du tout décidé de céder l'entreprise. Et en 2017, on a été approché par les Galeries Lafayette. Et on n'était pas du tout dans cette logique de céder l'entreprise. Et au moment donné où les Galeries Lafayette nous ont fait comprendre qu'ils avaient une vision stratégique plus large, finalement, on s'est posé la question avec Eric. Et c'est là où on est revenu aux fondamentaux et on est revenu aussi au jingle du départ I Will Survive. Qu'est-ce qui nous anime ? C'est finalement d'assurer la pérennité de l'entreprise et de lui donner des perspectives d'avenir. Et on s'est dit qu'on serait plus fort dans un monde quand même hyper compétitif à adosser un groupe comme les Galeries Lafayette et que ça nous permettrait d'aller plus vite et de donner une meilleure chance en fait, de développement à la Redoute. Et finalement, on a mis notre ego d'entrepreneur, parce que c'était quand même super sympa d'être indépendant, d'être chez soi, de côté pour, encore une fois, pour le truc qui nous dépassait, c'est la Redoute et assurer finalement l'avenir de la Redoute. Et on a décidé de laisser rentrer Galeries Lafayette à hauteur de 51% au capital. Voilà.
Et maintenant, il y a la suite. Et pour la suite, je te propose de répondre à une question de Laurent Garret, qui est le président de Neuflys OBC.
Vous avez un message.
Bonjour Nathalie. En moins d'une décennie sous votre impulsion, la Redoute est devenue l'un des sites de e-commerce les plus rentables. Bravo, un grand bravo à vous et quelle belle réussite. Et alors que vous quittez la Redoute et cédez le plein contrôle aux Galeries Lafayette, quelles sont vos ambitions pour l'avenir, votre nouveau challenge? Merci.
Alors, c'est une bonne question. Alors, j'y ai bien sûr réfléchi. Le fait est que j'ai pas encore réussi complètement à me projeter parce que on va avoir le closing au 31 octobre et je suis un peu j'aime bien finir quelque chose et bien finir quelque chose avant de démarrer une nouvelle aventure. Je suis pas
t'as encore un pied dedans.
Voilà, je suis encore un orteil voilà, un orteil. Mais puis je suis pas du genre à savoir faire 10 choses à la fois.
Donc tu vas pas nous faire d'annonce en avant-première.
Non, voilà. Non, mais par contre je sais que j'ai envie d'entreprendre, ça c'est certain. J'ai pas juste envie de gérer des participations ou d'investir, etc. Ça, moi, c'est un truc qui m'anime, en fait. C'est plus fort que moi. Et alors, j'ai très envie d'entreprendre, mais alors peut-être qu'on se reverra dans 6 mois et ça sera pas du tout le cas, dans des 2 secteurs, en fait, qui, moi, me passionnent, où je pense qu'il y a pas mal de choses à changer, c'est l'éducation et la santé. 2 secteurs que je ne connais pas du tout, mais où, en tout cas, que j'expérimente en tant que client ou en tant qu'utilisateur et où je me dis, waouh, quoi, il y a énormément de choses à transformer et à changer. Et donc, du coup, je me dis, bon, dans ces secteurs-là, il y a des choses à faire.
Donc, on te recevra peut-être à notre micro, comme Céline Lazorte, pour Résilience bientôt.
Oui. Alors que Céline ne voulait pas, elle voulait plus
entreprendre.
Elle voulait plus entreprendre.
Ouais. Elle avait dit plus jamais. Oui. Et puis finalement.
Ouais. Donc, moi, ça serait peut-être l'inverse. Hein, du coup.
Alors, j'imagine qu'après une telle expérience, donc toi, tu dis je veux entreprendre, mais tu dois être sollicitée de toutes parts. Comment on évite de replonger tout de suite dans le bain au risque de précipiter sa décision?
Ah, c'est vachement dur. Hein. C'est vachement dur. Hein. J'ai eu énormément de sollicitations. Et c'est vrai qu'au départ, comme il y a un peu quand même cette peur du vide, hein, on se dit, oulala, mais en fait, en gros, là maintenant, voilà, je suis ultra désirable, mais est-ce que dans un an, ça sera encore le cas, etc. Et la tentation est forte. Et j'ai eu la chance, ou j'ai la chance de connaître une femme exceptionnelle qui s'appelle Brigitte Lemercier, qui a un cabinet, en fait, de recrutement. Avec qui j'ai une très très bonne relation et qui m'avait donné un conseil très très précieux, qui m'avait dit prenez au moins 6 mois, 1 an après en fait cette aventure pour voilà vous recentrer, comprendre ce que vous voulez vraiment faire. Et à chaque coup qu'il y avait un truc vraiment hyper intéressant, je me disais oh là là il faut y aller parce que c'est vraiment super intéressant. J'avais cette petite voix de Brigitte Lemercier, donc je la remercie au passage, qui me disait, que j'entendais, qui me disait, mais non, mais en fait, en gros, il faut que tu attendes 6 mois, 1 an et que tu te poses et avant de partir tête baissée dans un nouvelle aventure ou dans un nouveau truc qui finalement ne correspondra peut-être pas forcément à ce que tu as envie de faire sur les 10 prochaines années.
Prendre le temps.
Ouais.
On a un de nos invités sur un autre podcast que nous avons qui s'appelle Cash Out, qui lui est parti faire le chemin de Compostelle, justement après la vente de sa boîte pour se recentrer et se dire ok, où je vais avant de me relancer dans une aventure.
Alors je pense pas que j'irai jusque là. mais en tout cas j'ai son conseil en tête et en tout cas jusqu'ici j'ai réussi à le suivre.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
D'où tu viens, Nathalie?
Alors moi, je viens d'une famille, je dirais, un peu atypique, puisque ma mère est allemande et mon père est hongrois. Ils se sont rencontrés à Paris et je pense que ça m'a pas mal, construite, dans la mesure où mon père a fui la Hongrie en 1956 pour avoir accès à l'éducation. Donc j'ai grandi dans une famille où l'éducation et le fait d'apprendre et d'apprendre en permanence était quelque chose une valeur très très forte. Donc ça c'est la première chose. Ensuite mes grands-parents étaient indépendants. Donc je pense que ça m'a pas mal aussi marqué
et inspiré
voilà. Donc j'avais toujours cette aspiration à moi aussi être indépendante un jour. Et je dirais mes parents ont dû tout repartir de zéro finalement puisqu'ils avaient migré à Paris. Mon père est arrivé, il avait deux Napoléons d'or que sa mère lui avait cousu dans le manteau pour vraiment le cas d'urgence ultime. Mais il est arrivé, il n'avait pas un euro en fait, ou à l'époque c'était des francs. Ouais. Et en fait, on a toujours été, on a grandi de manière hyper simple et hyper consciente du fait que à tout moment on peut tout perdre et à tout moment en fait en gros on peut aussi se reconstruire en ayant tout laissé tomber, tout perdu et en étant dans un environnement qu'on ne connaît pas. Et je pense que ça m'a énormément marqué et c'est ça qui fait que aussi quand je me retrouve dans des situations difficiles, je suis pas du tout démunie ou quoi que ce soit parce que j'ai jamais peur de perdre ce que j'ai. J'ai ce besoin de liberté aussi et ça m'a énormément marqué.
Et comment ça s'est retrouvé dans ta vie, dans ta carrière, mais aussi dans ta vie de femme ?
D'une part, en fait, une soif d'apprendre incroyable. Hein. Mm-hmm. Quand je lis pas un livre ou quand je n'apprends pas un truc, ça me rend dingue. J'ai l'impression de stagner et puis de devenir bête, en quelque sorte.
Du coup, les 6 mois, 1 an vont être rudement mis à profit.
Ah oui, tout à fait. Non, mais c'est clair que là, en fait, j'ai rattrapé mon quota de livres. Là, tout l'été, en fait, j'ai lu énormément et je me suis énormément, en fait, alimentée.
C'est quoi la dernière chose, justement, que tu as apprise ?
La dernière chose que j'ai apprise, alors ça c'est la toute dernière chose, c'est ma fille qui fait des études de médecine, donc qui en fait en gros qui m'a appris des choses en fait sur mon estomac et sur des bactéries qui étaient particulièrement utiles pour la santé. Voilà, c'est mais donc j'aime apprendre de secteurs divers et variés quoi. Ouais. C'est, je suis pas mono neuronée sur en fait le retail et puis le prêt à porter, la maison et la décoration quoi. Je suis assez ouverte. Bon, j'ai perdu le fil. Donc,
le fil, c'était comment ça se retrouvait dans ta vie, cet apprentissage permanent. Voilà. C'est moi qui fais une digression.
Oui. Et puis, il y a aussi, en fait, cette capacité, finalement, à ne rien prendre pour acquis et à savoir se remettre en question et à savoir repartir et avoir des convictions, tout simplement, et à se battre.
Ce que tu as su démontrer à La Redoute. Oui. Tu disais tout à l'heure être introvertie. C'est toujours le cas après cette forte médiatisation ?
Alors, ouais, moi, je suis plutôt introvertie. En tout cas, introvertie, c'est pas négatif. Hein. C'est juste qu'on a peut-être moins besoin des autres pour finalement développer sa réflexion, qu'on a plus besoin finalement d'être avec soi-même et puis de réfléchir avec soi-même. J'avais beaucoup d'appréhension à m'exprimer devant un public ou ça bien sûr j'ai énormément évolué et j'ai dû parce que finalement quand on a plus de 2000 collaborateurs, il faut, pour emmener les équipes, savoir parler aux équipes en grand nombre, pas juste en one-to-one ou en petits groupes. Donc ça, j'ai appris. Mais j'ai quand même encore un peu la boule au ventre quand je dois prendre la parole devant plein de personnes.
Bon, ça va, là, on n'est que deux. on le disait en introduction tout à l'heure, tu es très engagée dans l'entrepreneuriat féminin. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Comment tu mesures le chemin parcouru et selon toi, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour que ça s'améliore tout ça ?
Alors, je pense qu'on a su éveiller les consciences, oui. C'est-à-dire que en chiffrant et en mesurant, et on s'est rendu compte que finalement c'est des sujets qui n'étaient pas du tout suivis par les fonds d'investissement. En fait, ils ne regardaient pas, ou en tout cas la plupart ne regardaient pas s'ils investissaient dans des entreprises cofondées par des femmes ou fondées par des femmes. C'était pas un KPI en fait, un métrique qu'ils regardaient. Donc, je pense qu'on a contribué à la prise de conscience déjà, à la mesure, et ça c'est déjà une première étape. Et en fait, on voit qu'il y a une accélération, mais qu'elle est très lente hein, et qu'il y a encore énormément de chemin à parcourir, hein, mais de part et d'autre, c'est-à-dire bien sûr du côté des investisseurs hein, et de leur manière de regarder des dossiers portés ou co-portés par des femmes, mais aussi au niveau des femmes elles-mêmes, c'est-à-dire de la capacité à croire en elles-mêmes, de se donner les moyens de réussir, de bien s'entourer, d'aller de l'avant. Je pense que Ça, c'est on revient au sujet de l'éducation aussi. Et c'est pour ça que pour moi, le sujet de l'éducation est assez fondamental.
Et le rapport à l'argent aussi.
Et le rapport à l'argent, voilà. Je pense que ça, c'est un vrai sujet d'éducation où les parents ont un rôle à jouer, l'école a un rôle à jouer, l'éducation a un rôle à jouer. Donc, je pense que voilà, c'est un chemin qui sera long, mais voilà, qui se fera.
Et tu as d'autres engagements ?
Alors, toujours autour des femmes. C'est-à-dire que là, c'est les femmes entrepreneurs dans le monde du digital. J'ai lancé le fonds de dotation d'une association du Nord qui s'appelle Solfa, qui accompagne en fait les femmes en difficulté, qu'elles aient subi des violences conjugales ou que ce soit des mineurs en situation de prostitution, par exemple. Et le fonds de dotation vise à financer des projets de cette association. Donc, j'ai lancé ce fonds en tant que présidente il y a plus de 5 ans maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est bien d'accompagner, bien sûr, les femmes entrepreneurs. Hein, mais en règle générale, c'est quand même des personnes qui ont déjà, en fait, un certain background. C'est tout aussi important d'accompagner des femmes, en fait, qui n'ont pas les moyens, finalement, d'assurer tout simplement, en fait, l'éducation de leurs enfants, qui se posent la question de où elles vont dormir demain, etc. Donc, je pense que ça, c'est important aussi pour moi, le fait d'avoir une société équilibrée, où il y a un juste partage de la valeur, c'est quelque chose de très important. C'est aussi pour ça qu'on a ouvert le capital de la Redoute. Et je pense que ça va bien au-delà du monde de l'entreprise. Une société, finalement, où il y a une forme de justice sociale et où, qui est équilibrée, où il n'y a pas des trop grands déséquilibres, je pense qu'elle est beaucoup plus pérenne qu'une société où il y a trop de déséquilibres. Donc, c'est une goutte d'eau dans un océan, mais en tout cas, je contribue à mon humble échelle dans le Nord.
Tu peux répéter le nom de ce fonds ?
C'est une association qui s'appelle Solfa.
Solfa.
Et donc, le fonds de dotation s'appelle le fonds de dotation de Solfa.
Super. On mettra un petit lien.
Oui.
C'est le jingle, je crois, qui m'a plus manqué pendant... J'étais pas là. la première fois où tu as oublié d'être scolaire ?
Alors ça, c'est vachement dur parce que je suis une fille hyper scolaire.
C'est bien pour ça que je pose cette question.
Alors, où est-ce que j'ai oublié d'être scolaire ? Je pense que... Non, je pense que c'est plus fort que moi. Je suis une fille hyper scolaire. En fait. C'est insupportable. C'est insupportable. D'ailleurs, je ne sais pas comment Eric a fait pour me supporter parce que lui, il est tout le contraire de scolaire.
C'est pour ça que ça a marché.
Ouais, peut-être. Mais non, je suis une fille hyper scolaire. Je suis toujours à l'heure. Je suis toujours. Si je suis en retard, c'est horrible. Je ne supporte pas d'être en retard. C'est plus fort que moi. Voilà, je suis hyper scolaire.
Bon,
je veux que mes enfants fassent leurs devoirs. Je suis hyper chiante là-dessus. C'est horrible, mais je suis comme ça.
Il manque pas l'école.
Non, c'est ça. Il manque jamais 2 jours d'école. Mon frère, en fait, il fait rater à son fils 1 semaine d'école parce qu'il fait un stage de ski pour préparer les championnats de ski. Moi, ça me viendrait, mais jamais à l'idée. L'école, c'est hyper important.
Je comprends. Ouais. Attention, ce jeu de mots. Ton premier redoute.
Mon premier redoute. tout le monde me le fait, mes enfants aussi. qu'est-ce que je redoute ? Non, mais je redoute rien en plus. C'est ça qui est dingue. Mais c'est pour ça que j'aime bien le nom La Redoute, parce que tout le monde voulait qu'on arrête d'appeler La Redoute La Redoute, parce que tout le monde trouvait que c'était négatif. Et moi, justement, le contresens et puis le fait que ça s'appelle La Redoute, je trouvais ça génial.
Ton premier coup de culot.
Alors, mon premier coup de culot, c'est déjà d'avoir écrit une thèse et fait un doctorat. Je pense que, en fait, en gros, personne ne m'imaginait en train d'écrire un doctorat. Parce que je suis une fille plutôt... Pardon ?
C'était sur quoi, je suis pas
me rappeler. En fait, un doctorat en finance, en plus.
Et le thème ?
Alors, le thème hyper chiant, sur les normes comptables, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, le sujet bien chiant. Et c'est vrai que je m'étais jamais imaginé ça. Et finalement,
j'étais passionnée par le sujet.
J'ai trouvé ça génial. J'ai travaillé en parallèle chez Pricewaterhouse en tant qu'auditeur. Et du coup, ça me permettait de bien équilibrer entre un travail bien con où il fallait vérifier facture. À l'époque, c'était encore facture par facture. Il n'y avait pas la data qui permettait d'automatiser ça. Avec un travail un peu plus intellectuel de recherche, donc j'ai trouvé ça assez passionnant. Et ça, c'était le premier coup de culot. Je pense que personne ne m'attendait là. Et au final, je suis très contente de l'avoir fait.
Bon. Et allez, enfin, un petit dernier. Le premier apprentissage sur toi ?
Premier apprentissage sur moi, alors là, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal, qui ne fait pas beaucoup de développement personnel, etc. Donc, je pense qu'en fait, j'ai vachement appris en binôme avec Eric. C'est un peu con à dire, mais c'est le fait d'être en binôme, finalement, on a en permanence un miroir en face de soi. Et donc, je pense que j'ai appris pas mal sur mes limites et mes capacités en étant confrontée en permanence à mon associé qui me renvoyait en fait mon image quelque part. Donc, je ne peux que conseiller d'avancer en binôme parce que c'est très riche à la fois personnellement et collectivement.
Française, français.
On poursuit cette année, donc du coup 2022 avec ses présidentielles, à donner la parole aux entrepreneurs. Et j'ai décidé que dans ce studio, j'avais tous les pouvoirs et que je te nommais en un coup de stylo magique présidente de la République. Du coup, avec une telle casquette, quelles seraient les premières décisions que tu prendrais ?
Alors, d'une part, je supprimerais la fonction de président de la République, déjà. Première chose. Parce que je pense que c'est un modèle en fait désuet et qu'il y a besoin d'un modèle plus collaboratif et plus transverse.
Alors, tu serais plus pour un binôme du coup, vrai binôme.
Alors par exemple, ou alors un modèle à la Suisse où le président en fait de la Confédération suisse tourne tous les ans. Mmh. Donc il n'y a pas un président attitré pour 5 ans ou je ne sais quelle période, mais en fait en gros tous les ans c'est un nouveau président. Donc c'est pas la fonction ou la personne qui incarne la fonction qui compte, c'est plus en fait l'action et les idées et finalement le fait d'avancer. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième décision, ça serait de doubler le budget de l'éducation nationale. Parce qu'en fait, nous, on dépense en moyenne, je ne sais plus, 7 000 ou 8 000 euros par écolier ou par étudiant. Là où, en fait, des pays comme la Suisse, par exemple, pour les reciter, ou comme l'Allemagne, dépensent plutôt autour de 18 000, voire 20 000 euros. Et je pense que l'éducation, c'est quand même ce qui permet à notre société, finalement, de progresser. Et le fait de sous-investir dans l'éducation, ça pénalise notre pays.
Bon, eh bien, voici ces premières mesures de Nathalie, présidente.
C'est toujours facile à dire, hein. C'est toujours beaucoup plus difficile à faire.
S'inspirer. Respirer.
Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que pendant l'été, tu avais beaucoup lu, parce que tu avais un peu plus de temps. Où tu trouves ces temps de respiration et où tu les as trouvés aussi quand tu étais à la tête de la Redoute et ces moments d'inspiration aussi?
Alors, les moments de respiration et d'inspiration, c'est... alors, beaucoup, ça peut paraître un peu banal, mais la famille. Mmh. Je pense que pour moi et pour Eric, c'est là où on est assez similaires. En fait, la famille est hyper importante et les moments, en fait, de se ressourcer en famille sont très importants. Ensuite, c'est le voyage. Je suis quelqu'un qui adore voyager et donc tous les étés, en fait, on part, on fait des destinations plus ou moins lointaines et on découvre des nouvelles cultures et d'autres manières de faire, du coup. Et je suis quelqu'un d'hyper curieux, c'est-à-dire que j'adore, en fait, discuter avec que ce soit mes pères, hein, ou en fait des gens d'horizons complètement différents, pour justement comprendre comment les choses marchent dans d'autres univers que le mien, et quels sont les trucs qui marchent bien, et comment je pourrais éventuellement, en fait, en gros, les copier et les adapter à mon environnement, à moi. Et ça, c'est hyper important, et moi, j'ai besoin d'être alimentée. C'est-à-dire que quand je suis pas alimentée, j'ai l'impression de dépérir et de pas avancer, de devenir bête. Donc mes moments d'inspiration, c'est justement le fait de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer, de pouvoir voir d'autres choses Et c'est d'être en éveil permanent. Après un certain temps, j'ai compris que c'était important de faire du sport aussi, que ça permettait d'avoir une hygiène de vie plus saine. Mm-hmm. Mais bon, c'est pas forcément le truc
que tu vas faire en premier,
voilà.
Et justement, dans ces rencontres, est-ce qu'il y a une rencontre un peu insolite qui t'a amené une idée ou qui t'a amené à faire quelque chose derrière où tu t'y attendais mais absolument pas?
Bah, disons que, par exemple, le fonds de dotation de Solfa, là, mm-hmm. J'avais planifié de faire ça. Et c'est vrai que c'est la rencontre avec le président de Deloitte du Nord, hein, qui lui-même était président en fait, de cette association Solfa, qui m'a finalement amené à lancer ce fonds de dotation et puis à lever des fonds pour en fait cette association. Si j'avais pas discuté avec Jean-Yves Morisset et s'il n'avait pas été notre auditeur, je pense que jamais je n'aurais lancé ce fonds de dotation. Donc je pense que même la plupart des choses que j'ai faites sont venues de rencontres, de discussions, d'idées que j'ai pu avoir en discutant avec les uns et les autres. Et ça, en interne de l'entreprise comme en externe de l'entreprise. Ouais.
Wow. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'une première claque, c'était ce conseil de direction. Il peut y en avoir d'autres, des claques. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager dans cette rubrique qu'on a appelée la claque, au sens positif ou négatif du terme?
Ouais. Alors, il y a deux claques, en fait, en gros, qui m'ont marqué. Alors, il y en a une qui est plus... une claque sociale, c'est-à-dire que quand on a repris la redoute avec Eric, François-Henri Pinault était prêt à refinancer l'entreprise à hauteur de 500 millions d'euros. Mais Eric et moi, on voulait pas partir dans l'aventure sans avoir le soutien du corps social. Et aussi pour pouvoir mener à bien notre plan social. Et il y a quand même eu un syndicat qui préférait en fait répartir les 500 millions entre tous les collaborateurs plutôt que de sauver l'entreprise et d'assurer, je dirais, la pérennité des emplois. Donc ça, pour moi, ça a été une vraie claque parce que j'ai jamais compris.
J'imaginais pas.
Voilà, j'imaginais pas, j'ai pas compris et j'ai toujours pas compris comment ça, on pouvait finalement en arriver là. Donc ça a été une vraie claque et d'ailleurs ça me travaille encore maintenant et je me demande comment on peut rentrer dans un dialogue avec ces personnes pour réussir finalement à les faire changer d'avis. J'ai pas réussi encore mais je ne désespère pas. Et la deuxième claque, c'est on avait décidé d'investir dans un entrepôt logistique complètement automatisé, ultra moderne, etc., qui nous a coûté un blé dingue. Et quand on a lancé, le truc ne marchait pas, en fait. Et ça a été... on a vécu 6 mois, mais vraiment horribles, et où on était en réunion de crise permanente. Hein. Et ça a été une claque énorme, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que... en mettant de l'argent, en mettant en fait en gros... alors là, on avait fait venir aussi des consultants spécialisés en logistique pour nous aider à construire cet entrepôt. Et en mettant une énergie de dingue dans la préparation, en fait, on avait quand même réussi à se planter. Donc ça a été une énorme claque. Et là, la redoute vient d'ouvrir un nouvel grand entrepôt et ça s'est passé superbement bien. Donc, les équipes ont été en capacité d'apprendre des erreurs.
Mais ont tiré des enseignements.
Ouais. Premier. Ouais.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Je vais me taire pendant les 3 prochaines minutes pour te laisser une carte blanche, coup de gueule, coup de cœur. À toi de voir, tu as le micro.
Ou alors, je ne sais pas si c'est un coup de gueule, mais en tout cas, ça, je reviens au sujet, mon sujet de prédilection, l'éducation. Moi, j'ai de manière un peu naïve, je suis rentrée dans des conseils d'administration de grandes écoles ou d'universités en pensant que finalement, je pourrais contribuer à construire ou à réfléchir à comment en fait en gros transformer l'éducation de nos étudiants pour pouvoir en fait mieux les préparer au monde de demain et puis surtout pour que les entreprises accueillent des étudiants qui finalement sont en capacité d'accompagner les transformations futures et de s'adapter en permanence. Et force est de constater que le milieu était hyper syndicalisé, que c'était très bureaucratisé, ou que l'administration jouait un rôle très très important. Donc ça, c'est un peu mon coup de gueule. Je me dis, l'éducation, c'est tellement important, c'est tellement structurant pour l'avenir de notre pays, la capacité d'innover, la capacité de continuer à créer de la valeur, que je me dis, mais... mon Dieu, quoi. Arrêtons de chacun d'être sur son précaré, chacun, en fait, retranché dans ses convictions, et essayons de vraiment construire une éducation qui permette à nos enfants d'appréhender l'avenir de manière plus sereine, plus positive, et de s'accomplir dans la vie future. Et arrêtons d'être dans nos guerres de chapelle. C'est un coup de gueule un peu général, je dirais. Je suis sortie de la plupart des conseils d'administration parce que j'avais l'impression de perdre mon temps. Même s'il y a des gens brillants et des gens très capables, hein, finalement, ils n'arrivent pas à passer outre, en fait, les différences ou, je dirais, des certains paradigmes. Donc il y a ça qui joue, et puis après il y a bien sûr aussi le sujet que j'évoquais tout à l'heure, le sujet des moyens, parce que c'est certain que si on n'a pas les moyens, on peut pas non plus finalement transformer. Mais je pense qu'il est temps de réformer notre éducation. Il est temps d'apprendre aux enfants de travailler de manière indépendante, d'être beaucoup moins top-down et de plus suivre le rythme des enfants ou des étudiants, en fait, dans l'apprentissage. Donc, il y a plein de modèles qui marchent et qui fonctionnent et qui montrent qu'une autre manière de faire peut fonctionner. Et je pense qu'il faut aussi décentraliser tout ça et donner beaucoup plus, en fait, le pouvoir aux gens qui font et qui savent faire. C'est un peu mon coup de gueule, ou j'en sais rien, mon appel, je désespérais pour que le système de l'éducation se réforme et qu'on arrive à préparer nos jeunes, et puis surtout qu'on assure l'avenir de notre pays, parce que là on voit qu'on est en train de quand même de perdre du terrain. Et je pense que si on n'arrive pas à se remettre en question sur l'éducation, on ne va pas réussir, en fait, à créer de la valeur et puis à continuer à développer la France. Et la France, c'est un superbe pays, donc ça serait dommage.
C'est presque une décision de présidente.
Oui.
On était donc du coup dans 40 nuances de Sista, et je t'ai demandé si toi, tu avais dû choisir une Sista, une femme entrepreneur que tu admires, une femme entrepreneur que tu souhaites mettre en avant, tu aurais choisi qui ?
Alors, c'est difficile comme question, parce qu'il y a plein de femmes entrepreneurs que j'admire. Mais il y a une jeune femme que j'aimerais bien mettre en avant, c'est Chloé Hermary, qui a créé Adatech School. Je trouve que justement, sur le sujet de l'éducation, d'une éducation plus inclusive, différente, donc elle porte un sujet qui est important pour moi. Je trouve qu'elle a une énergie de dingue, elle a une capacité... à embarquer, qui est assez phénoménal. Donc je suis une fille que j'admire et que je pense qui va aller loin, et du coup je voulais la mettre en avant.
Et ben merci pour elle, on la taguera dans cette émission. Alors juste avant de finir cette émission, j'avais trois petites questions flash à te poser. Je voulais te demander la question qu'on te pose tout le temps et qui t'agace.
Alors moi je suis une fille pas du tout agacée, donc on peut me poser, non mais c'est vrai, parce que en fait en gros j'ai constaté que de toute manière 90% des choses qu'on disait n'étaient pas entendues ou comprises telles qu'on pensait l'avoir dit, et du coup la répétition ne m'embête pas, et j'ai plutôt remarqué que la répétition était justement importante, parce que plus on répétait, plus on expliquait, le mieux on arrivait à faire passer son message, et quand on veut avoir un impact, il faut que son message passe. Donc en fait plutôt une fille très patiente.
La question qu'on ne te pose jamais, c'est tant mieux.
La question qu'on ne pose jamais, c'est sur... j'ai peu de questions sur ma situation privée et aussi sur ma famille, mon époux, etc. Et ça m'arrange, parce que j'ai envie de protéger mon environnement privé.
Et t'as bien raison. Et enfin, j'aimerais te demander quelles questions tu aimerais poser aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent.
Alors, la question que j'aimerais leur poser, c'est... de quelle manière elle compte soutenir l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin et s'investir pour contribuer à développer l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin. Je pense que c'est hyper important. On entreprend, nous, il faut aussi qu'on soutienne les femmes entrepreneurs. Et du coup, qu'est-ce qu'elles ont fait, de petit, de grand, pour pouvoir soutenir l'entrepreneuriat au féminin?
Eh bien, je propose à toutes les entrepreneurs qui ont entendu la question de Nathalie de commenter sur les réseaux leur réponse à cette belle question. Je rappelle, tu étais la Sista de Georges Letigier de Veide. Et on te dit à bientôt, certainement après ces 6 mois de coupure, pour ta nouvelle aventure entrepreneuriale.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.